La revue de presse.
France Inter, le 7-9.
Claude Askolovitch, on parle de pattes de mouche.
Qui zèbre au stylo bille bleu, deux pages épicées de fautes d'orthographe, qui dénoncent un mariage blanc, détails à l'appui. Elles ont été postées, ces pattes de mouche, dans la boîte aux lettres posée sur la porte de gauche de l'hôtel de ville de Valence. Les pattes de mouche ne sont pas signées. Et c'est une parmi des dizaines de lettres anonymes que reçoit le maire Nicolas d'Aragon, dont une secrétaire, Michel, 25 ans de mairie, a ouvert ses archives aux Parisiens, elle qui collectionne ces dénonciations masquées qui témoignent, dit le journal, d'une passion française. Alors vous découvrirez qu'on a dénoncé à Valence un petit de 14 ans qui se rend à l'école à vélo et qui a mis le feu au conteneur de verre. Et aussi un véhicule Renault en défaut d'assurance depuis 2015. On découvre aussi cela. Je viens vous signaler mon étonnement de voir, en allant faire mes courses au magasin Action, de jeunes vendeuses avec un voile sur la tête. Nicolas d'Aragon fait preuve d'indulgence pour ses administrés délateurs, car quand on lui signale un délit, c'est utile, il transmet à sa police municipale. À la Baule, le maire Franck L'Ouvrier dit que les enquêtes fiscales débutent souvent par des dénonciations, car les Français ne supportent pas l'incivisme de la fraude. Oui, mais à Sébastien Puy-de-Dôme, le maire Fabien Neuvy dit que ces lettres ne disent que nos haines qui montent. S'ils étaient armés, les Français pourraient se tirer dessus, comme aux États-Unis. À Marseille, nous dit Libération, on grogne contre les Parisiens, mais simplement dans des conversations, des slogans de réseaux sociaux, dièse ne venait pas. Paradoxe, c'est l'amour des Parisiens, terme générique pour les compatriotes du Nord, qui pose problème. Car Marseille à la côte. Les nordistes y font mouvement, mais en s'installant à Marseille, la transforment, encombrent les calandres, gentrifient le centre-ville, sèment des restaurants bio et surtout font monter le prix de l'immobilier et l'on s'inquiète d'un exode des classes populaires marseillaises. La Provence nous dit que cette semaine, la mairie de Marseille va faire flamber la taxe d'habitation des résidences secondaires pour rendre au marché des logements vides ou devenus des meublés loués façon Airbnb. En Ariège aussi, nous dit la Dépêche, les oreilles des Parisiens sifflent, précisons, les hommes politiques parisiens en costard, qui dans la loi Montagne donne latitude au préfet pour rendre obligatoire les équipements neige sur les automobiles à partir de novembre dans 48 départements. Alors la Dépêche râle avec ses lecteurs contre la norme. Quand on est éleveur à Laguiole, infirmier à Luchon, vétérinaire à Saint-Lary, institutrice à Aix-les-Thermes, la façon dont il faut manipuler sa voiture lorsque la neige recouvre la route, on connaît. Et au-delà de la douane loi même, qui n'est pas si coercitive, comprendrez-vous en lisant la Dépêche et aussi l'Est républicain, c'est la musique de cet éditorial où contre Paris, on chante la montagne, qui nous dit cette passion française, la jacquerie contre le pouvoir oppresseur. La même Dépêche nous dit que samedi à Toulouse, Michel, 71 ans, a été bloqué au pont Saint-Pierre par un barrage de policiers qui sécurisait la visite du Premier ministre Jean Castex. Elle n'a donc pas pu dire au revoir à sa maman Jacqueline qui s'en allait à l'hôpital à 92 ans. Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à écrire, s'est entendu dire Michel par un policier. La Dépêche l'écrit pour elle.
Et on parle aussi de liberté.
Et sur le site du Monde, vous lisez une utopie réalisée, l'entreprise libérée. Terme sociologique qui désigne l'entreprise sans chef, qui vit et s'organise, sans directive, sans reporting, sans sanctions, sans feu vert, sans lenteur hiérarchique. Alors les employés concernés, organisés en petites cellules autonomes, retrouvent le goût de l'engagement. Il y aurait 500 organisations libérées en France, une centaine d'autres à travers le monde. À Chronoflex, société nantaise de dépannage, s'affiche un fier slogan « Performance par le bonheur ». Et de fait, Chronoflex a vu son chiffre d'affaires gonfler de 15% après sa libération en 2012. Mais souvent ailleurs, la libération est un échec. Les employés ont besoin d'être menés, alors libérés, ils s'en vont. Dans les Éco-Start, section jeune, génial, du journal économique, on parle de jeunes gens qui dans le travail espèrent trouver du sens. Un mot japonais les résume, ikigai, raison d'être ou mission de vie. Ce serait le fétiche de ces nouveaux venus qui pensent que si tu n'aimes pas ton job, tu rates ta vie. Le Progrès, édition de Haute-Loire, raconte à Issingeaux l'école nationale professionnelle de la pâtisserie, où des adultes cette fois, qui étaient infirmières, cadres de bâtiment, ingénieurs aéronautiques, trouvent un bonheur possible dans le crémeux porté à 85 degrés ou le nappage au chocolat. L'Est républicain, lui, se souvient du patrimoine industriel de la Franche-Comté, dilapidé dans la désindustrialisation. Un livre nous dit ce que fut un autre bonheur fait de forges et d'usines.
Et on parle enfin, Claude, de Julian Alaphilippe.
Et l'équipe, où vous lisez cette phrase de Bernard Hinault, « Il faut être né pauvre pour se faire aussi mal », montre à sa une la plus belle photo du champion du monde cycliste unanimement adulé. Alaphilippe a les bras écartés comme s'il s'envolait et ses mains aux longs doigts semblent celles d'un pianiste. Sa légèreté est inoubliable. Vous lisez dans Nice Matin que hier, sur la promenade des Anglais, un jeune Belge de Liège, Luca da Silva, a remporté le semi-marathon de Nice en bluffant, comme une réciprocité, au coup d'Alaphilippe chez les Flamands. Vous lisez dans Le Figaro le vrai roman de Jean-Baptiste Alès, rescapé du génocide des Tutsis du Burundi, qui aurait pu mourir près de sa mère assassinée, qui en a réchappé et qui, français par adoption, est devenu champion handisport. Vous lirez dans Le Dauphiné Libéré le roman vrai de Lori Faipang, qui, elle, représente le Cambodge dans le monde de la course de longue distance, mais qui tire sa force du courage de son père, qui fut prisonnier des Khmers Rouges, du souvenir de sa petite fille morte alors qu'elle la portait en son ventre, et de l'amour de son fils vivant. Un film la raconte, il s'intitule Au-delà du temps.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.